Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à parler, plus particulièrement Florence et Damien.
Écran, s'il vous plaît.
Pardon. Marche-t-il ?
Oui, oui.
Oui, donc je disais que je voulais dans un premier temps remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité, plus particulièrement Florence Bergeau-Blaquer et Anna. Et avant d'en venir au sujet même de mon intervention, je souhaiterais m'en éloigner un instant pour rappeler quelques principes juridiques souvent oubliés, voire ignorés, et qui, je pense, permettront de mieux saisir les problématiques posées dans la suite de mes propos. On entend ou l'on lit parfois aujourd'hui assez fréquemment dans la presse ou dans l'opinion publique que la laïcité serait synonyme, dans le meilleur cas, d'ignorance, voire dans le pire, de rejet du fait religieux. Le corollaire de cette affirmation générale étant qu'un système juridique laïque serait totalement imperméable à la réception de normes religieuses. Pourtant, si pour la Cour de cassation, les lois religieuses sont sans valeur juridique, ils ne peuvent jamais acquérir une force supérieure à la loi, les juges n'hésitent pourtant pas à s'y référer, dans la limite, bien sûr, du respect de l'ordre public. La Cour de cassation a ainsi jugé en 1971 que la qualité cachère d'une viande devait être considérée en droit positif comme une qualité substantielle de la marchandise en ce qui concerne les acheteurs de confession israélienne. De même, selon une jurisprudence bien établie, le refus par le mari de confession israélite de délivrer l'acte de répudiation, on appelle ça le guet, constitue de la part de celui-ci un abus de droit et peut permettre l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'épouse lésée. Enfin, un sacristain homosexuel ne peut se plaindre d'être licencié par une association cultuelle fermement attachée au respect de la foi catholique, et une enseignante divorcée et remariée peut être licenciée par l'établissement catholique qui l'emploie. Donc, ramener à la problématique posée par ce colloque, cette perméabilité juridique apparaît tout aussi vivante. Je vous propose, à partir du postulat en vertu duquel le terme « halal » a subi un élargissement sémantique, ne nous limitant plus au seul permis et à la qualification donnée à l'incarné pour devenir aujourd'hui l'expression de comportement jugé conforme à la normativité islamique, ou plus exactement à certaines de ses interprétations ou à certaines traditions qui sont parfois rattachées. Ce faisant, il me semble intéressant d'étudier les rapports entre cette halal attitude, comme dit Anne-Marie Bouzard, et plus largement les normes islamiques qui les sous-tendent avec le droit français. Je m'attacherai donc ici à l'étude des rapports entretenus par les normes islamiques et le droit interne, et afin de respecter mon temps de parole, mais également car cela correspond à une évolution substantielle. En effet, pendant longtemps, les problématiques issues de la réception de la norme islamique en droit français ont concerné avant tout le droit international privé, c'est-à-dire la réception de normes issues de droits étrangers marquées par le droit musulman, comme par exemple la polygamie, la répudiation, ou bien encore la kafala, c'est-à-dire le recueil légal, et ses relations avec l'adoption. Ces problématiques, évidemment, n'ont pas disparu. Mais alors, aujourd'hui, que de nombreux musulmans résident de manière définitive en France, où beaucoup sont nés et possèdent la nationalité, les normes islamiques, donc, interrogent directement plusieurs domaines du droit interne. Il y a lieu de constater que si ces rapports sont souvent perçus et présentés sous le seul prisme de l'antagonisme normatif, cet antagonisme ne suffit cependant pas à les résumer. Il me semble en effet que l'on peut examiner les rapports entre normativité islamique et droit français en retenant quatre variantes. Les zones où les normes islamiques sont appliquées sans difficulté, celles où le droit français tisse avec elles des compromis réciproques, les domaines où les normes islamiques sont retraduites dans les catégories du droit français, et pour finir, les domaines où elles rentrent en opposition, quelquefois frontale, avec le droit français. Je ne ferai pour chacune de ces quatre variantes que citer quelques exemples non exhaustifs, et ce, encore une fois, pour respecter mon temps de parole. Donc, j'illustrerai le premier point de ma démonstration en évoquant les normes fondant le système de la finance islamique, qui bénéficie d'une excellente réputation dans les milieux politiques, économiques et financiers, réputation qui s'est concrétisée par la publication en août 2010 de 4 instructions fiscales au bulletin officiel des impôts, précisant le régime fiscal applicable à 4 outils de la finance islamique, les murabaha, les soukoups d'investissement, les contrats d'ijara sur actifs et les contrats d'istina. Ce faisant, le ministère des Finances souhaite ainsi attirer les fonds d'investissement du Moyen-Orient et devenir une place financière importante pour ce type de placement en Europe. On peut ainsi remarquer que depuis le mois de juin 2011, la filiale française de la Banque populaire du Maroc a été autorisée à proposer à ses clients en France des services bancaires conformes à l'éthique islamique, et ce, dans une indifférence politique et médiatique quasi totale. Ce phénomène semble devoir s'affirmer. À la faveur des difficultés financières auxquelles sont aujourd'hui confrontés l'État et les collectivités territoriales, certains analystes n'hésitent pas à proposer, ils se tournent vers les produits de la finance islamique qui pouvaient les tenir à l'abri des empreintes toxiques responsables de la dégradation de leur capacité budgétaire. Donc si l'acceptation des normes islamiques est ici certaine, il est d'autres domaines où elle cède le pas à la recherche de compromis. Et c'est particulièrement le cas en matière d'immunation, où les musulmans désirant bénéficier d'un enterrement halal, c'est-à-dire conforme aux normes islamiques, pourront voir leurs demandes partiellement satisfaites, et ce, grâce à une adaptation tant des prescriptions funéraires islamiques que du droit funéraire français. Ainsi, bien que le droit musulman prévoit une inhumation très rapide après le décès, le délai minimum légal, en droit français de 24 heures entre la mort et l'inhumation, semble accepté par les autorités religieuses musulmanes. De leur côté, les services funéraires municipaux font, dans la mesure du possible, également en sorte de ne pas dépasser ce délai. De même, si l'expression la plus saillante du principe de la neutralité religieuse des cimetières consiste en l'interdiction de création des cimetières confessionnels, d'agrandissement des cimetières confessionnels déjà existants, le gouvernement est venu par plusieurs circulaires recommander aux élus locaux de faire droit aux demandes de création de carrés confessionnels au sein des cimetières publics. Enfin, alors même que le droit musulman prohibe la liberté religieuse post-mortem, l'inhumation du musulman au sein de ses carrés confessionnels, donc à proximité des autres tombes, est acceptée tant par le Conseil français du culte musulman que par l'organisation de la conférence islamique. Pour en venir maintenant au domaine les plus traditionnellement associés au terme halal, c'est-à-dire ceux concernant l'alimentation et la restauration, il faut noter aussi également l'existence de compromis. Par exemple, même si certaines cantines scolaires, comme celle de Strasbourg, prévoient des menus halal, nous verrons plus avant qu'elles ne sont pas tenues de le faire. Sans que cela soit une obligation, puisque le service public de la restauration reste un service public facultatif, elles peuvent prévoir des repas de substitution à chaque fois que du porc est prévu au menu, donc en conformité avec un interdit alimentaire majeur de la religion musulmane. Afin de permettre aux élèves musulmans qui souhaitent uniquement manger de la viande halal de continuer à manger avec les autres enfants, les cantines scolaires de plusieurs communes comme Lyon, Tourcoing, Grenoble, Annecy ou Aulnay-sous-Bois ont pris la décision, dans un esprit de compromis ou de pragmatisme, de proposer deux menus, carnés et végétariens. En troisième lieu, il me semble intéressant d'aborder le domaine de la retraduction des normes islamiques dans, comme nous disent Pierre Bossé et Paul Hélibe, le langage programmatique du droit français. Si ici, l'opération de retraduction ne provoque pas l'introduction pure et simple d'une norme non étatique dans le système juridique, elle en facilite toutefois la reconnaissance symbolique. Ce processus me semble opérant en ce qui concerne certaines normes islamiques, et je prendrai ici l'exemple des waqf, ou hadous, institutions de droit musulman consistant en immobilisation d'un fonds de sorte qu'il ne soit ni donné ni vendu, et que ses revenus reviennent à l'aumône. Cette institution est reconnue et pratiquée dans la majorité des pays arabo-musulmans, mais elle existe également dans les pays occidentaux. Leurs initiateurs, souvent originaires de pays où les WACF existent, utilisent pour ce faire des dispositifs juridiques légalement reconnus. En France, plusieurs instruments juridiques permettent d'atteindre des objectifs à peu près similaires à ceux poursuivis par les WACF et partant de satisfaire à une démarche pouvant se définir comme halal, c'est-à-dire conforme aux prescriptions islamiques. Parmi ces derniers, la fondation d'utilité publique va permettre à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales de décider de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Bien que la Fondation pour les œuvres de l'islam de France créée en 2005 n'ait pas atteint les objectifs qui lui ont été assignés, Bernard Godard a souligné qu'il n'est pas surprenant que cette idée soit apparue dans les cercles d'origine algérienne qui avaient peut-être en tête la gestion des biens habous en pays musulmans. Un autre instrument juridique présente quelques similitudes avec les WACF. Il s'agit du fonds de dotation, créé en 2008, afin de permettre à une personne morale de droit privé à but non lucratif de recevoir, gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Les revenus de sa capitalisation seront utilisés en vue d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou redistribués pour assister une autre personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres ou de ses missions d'intérêt général. La communauté musulmane s'est emparée de cet instrument juridique en créant des fonds de dotation dans différents domaines, dont les droits des femmes, ou bien encore la collecte de la zakat, c'est-à-dire la contribution en nature ou en espèces due par tout musulman qui représente le troisième pilier de l'islam, et dont le versement peut servir à couvrir certaines dépenses d'intérêt public. Le domaine du mariage, on en a déjà parlé, permet également des opérations de retraduction tout à fait intéressantes. Le mariage à la Fatiha constitue, on l'a déjà dit, je vais un peu répéter, une des caractéristiques du mariage halal, c'est-à-dire, entre guillemets, un bon mariage conclu et valorisé par beaucoup de musulmans qui le vivent comme un mariage religieux. Il se déroule donc en présence d'un imam, d'une personne reconnue pour ses connaissances religieuses, au domicile des parents, de l'un des époux, dans une mosquée, et la prononciation de la Fatiha étant ici assimilée à une condition de validité du mariage, au point donc de le désigner. Il faut noter que les tribunaux français ont pris en considération cette forme de mariage. Vécu comme une norme islamique, le fait pour l'époux de refuser le mariage religieux, c'est-à-dire la prononciation de la Fatiha après le mariage civil, constituant pour l'époux une erreur sur les qualités essentielles du conjoint, déterminantes de son consentement, et donc justifiant l'annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 alinéa 2 du Code civil et le versement de dommages et intérêts au profit de l'épouse lésée par ce refus. Souvent célébré avant même le mariage civil, ce qui est interdit en droit français, afin de permettre aux futurs époux de se fréquenter en dehors ou au domicile des parents, selon qu'ils se situent dans une famille plus ou moins traditionnelle, ces mariages à la Fatiha peuvent faire l'objet d'une retraduction juridique dans les catégories du droit français, en étant assimilés, vous l'avez dit, au concubinage, s'il y a vie commune, ou dans le cas contraire, le plus fréquent, à des fiançailles. Ces deux situations ouvrent des droits au profit des fiancés et des concubins, notamment le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice matériel ou moral engendré par le décès d'un des fiancés et la restitution des cadeaux en cas de rupture des fiançailles. Le concubinage allant jusqu'à permettre le partage des biens par moitié. Donc les mariés à la Fatiha pourraient donc tout à fait saisir la justice française afin de faire valoir leur droit. Et je finirai en faisant une démonstration en évoquant les zones de conflit, quelquefois frontaux, entre le droit français et les normes islamiques ou vécues comme telles. J'illustrerai ces conflits par l'exemple des normes vestimentaires et alimentaires. Donc je commencerai par les normes alimentaires en prenant l'exemple que j'ai déjà abordé du rejet des repas halal dans les cantines scolaires. Une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 16 août 2011 est venue en effet préciser que les repas sans porc, ainsi que ceux préparés à base de poissons ou d'entrevues, permettent, je cite, le respect des prescriptions ou recommandations des trois principaux cultes présents en France, ce qui, en creux, signifie que les cantines scolaires n'ont pas à servir pour se faire de repas halal ou cachés. Concernant le nombre vestimentaire, il convient évidemment d'évoquer ici la loi du 15 mars 2004 qui encadre le port de signes de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques et qui visait surtout à juguler le port du voile islamique, le hijab, ainsi que la loi du 11 octobre 2010 interdisant le port dans l'espace public d'une tenue destinée à dissimuler son visage, c'est-à-dire en fait de la burqa ou du niqab. En remarquant que si ces prescriptions sont vécues comme des normes islamiques, des débats, bien sûr, existent au sein de la communauté musulmane sur leur caractère obligatoire, et je pense surtout ici au port du niqab. Donc je ne reviendrai pas sur les débats juridiques, mais également politiques et médiatiques qui ont été engendrés par ces lois, mais je me bornerai simplement à remarquer qu'ils ne sont pas clos, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie d'une requête contre la loi de 2010 sur laquelle elle devrait se prononcer à la fin du mois. Et on peut également remarquer que plus globalement, le port du voile islamique est toujours l'objet de débats passionnés, comme par exemple celui qui a fait suite à l'annulation par la Cour de cassation du licenciement des salariés voiliers de la crèche d'Abidjan, je crois, la Cour d'appel de Paris devant l'affaire a été renvoyée pour un nouveau délibéré, devant prononcer sa décision à la fin du mois également. Donc je citerai également le débat concernant l'interdiction du voile à l'université, ce projet ayant été finalement rejeté par le président de la République, puisque la Commission nationale consultative des droits de l'homme a déclaré au mois de septembre dernier qu'il n'était ni pertinent ni utile de légiférer de nouveau en matière de laïcité. Donc ces exemples, je crois, révèlent une confrontation entre deux conceptions de laïcité. Une laïcité tendant à considérer que le fait religieux, et surtout ces manifestations visibles, qui sont qualifiées alors d'ostentatoires, doivent rester exclusivement cantonnées dans la sphère privée, et une autre conception, qui me semble plus conforme à l'esprit de la loi 1905, tendant à considérer que ces manifestations doivent être non seulement tolérées, mais protégées, tant qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre public, par une atteinte à la sécurité, la santé, la salubrité et la tranquillité publique, le dévoilement, pouvant, selon cette conception, s'imposer, non pas de manière générale, mais dans des cas particuliers où la personne doit être identifiée, par exemple, lors de contrôles de sécurité. Je vais conclure mon propos en constatant que si l'attention politique et médiatique se focalise sur les oppositions frontales entre cette halalatitude et les normes islamiques qui la fondent et l'ordre juridique français, cet exposé avec pour ambition non pas d'ignorer les situations de conflit, ce qui pourrait apparaître comme un excès d'optimisme, voire d'angélisme, mais de les ramener à leur juste place, à côté d'espaces de compromis et de pragmatisme, qui me semble bien plus étendu et bien moins évoqué. Merci.